All right. Bon matin, Louis. Merci d'être avec moi ce matin. Toujours un honneur, le seul et unique, Louis Chaussé d'Exilio. Donc, grosse surprise, aujourd'hui, on va parler HubSpot. Puis en fait, on va parler de l'ultime combat. Je n'ai pas oublié mon sound effect, c'est bon. HubSpot, Salesforce, Dynamics, Zoho, évidemment, il y en a d'autres, mais là, ça, c'est les trois plus grands auxquels on compare souvent HubSpot. En fait, c'est ton idée de sujet. Fait que je vais t'en parler un peu plus. C'est sûr que, bon, évidemment, on sait que c'est comme le gros combat entre les plateformes. À haut niveau, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais évidemment, quand on est dans le day-to-day, on voit qu'il y a énormément de différence entre les plateformes. Fait que comment tu vois ce sujet-là?
Ben, c'est drôle parce que j'ai souvent été amené à les comparer. Puis pour quelqu'un qui n'a pas les mains dedans, ça a effectivement l'air de tout faire la même affaire. Parce que si tu prends une espèce de checklist de, bon, est-ce que ça fait des landing pages? Est-ce que ça a une base de données de contact? Est-ce que ça l'envoie des emails? Tu vas cocher toutes les cases. Ils font tout ça. Mais le gros problème, c'est le user experience. Tu sais, c'est... Est-ce que c'est facile de faire tout ça? T'sais, oui, tu vas cocher les cases, mais est-ce que faire un email, ça va me prendre une heure de plus avec une plateforme que l'autre? La réponse est que oui, tu sais, souvent. Le email, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que souvent, c'est l'affaire à peu près la plus simple. Fait qu'ils font quand même tout relativement assez bien, mais quand tu commences à faire des trucs plus complexes, ben c'est sûr que si ça te prend moins de temps à les faire, au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, tu auras tellement sauvé de temps avec une plateforme que je n'aimerais pas, comparativement aux 3 autres.
Ben, c'est encore drôle, tu dis email, mais tu sais, je parlais récemment à quelqu'un qui utilise SpyDot, justement. Puis pour eux, là, c'est comme compliqué. En fait, il faut coder les courriels, puis il faut coder les templates. Oui, il y a quelques templates qui viennent out of the box, mais à la base, sinon, il y a beaucoup de coding à faire. Pour quelque chose d'aussi simple qu'un courriel. Fait que sur une fois que ton template est fait, il est fait. Mais quand même, pour le faire, c'est pas simple non plus.
Effectivement, MailChimp est pas dans les outils ces gros outils-là, mais tu sais, MailChimp a révolutionné le courriel là, déjà plusieurs années avec un espèce de drag and drop editor qui permet à n'importe qui de faire un email. Ouais. Mais HubSpot est rendu avec ça, tandis qu'avec Pardot ou Microsoft Dynamics for Marketing, faut que code des templates de email comme en 1999. Ça n'a comme pas d'allure pour des outils qui valent encore, tu sais, qui valent plus cher que HubSpot au final.
Oui.
Fait que. Puis c'est ça. Puis comme je disais, tu vas pouvoir cocher, mettons, tu fais une liste de fonctionnalités. Avec chacun de ces outils-là, tu vas pouvoir cocher, OK, ça le fait, c'est beau. Mmh. Souvent, les gens qui, dans les entreprises, qui prennent les décisions de, on va aller vers telle plateforme pour vers telle plateforme, c'est pas les gens qui sont dans les opérations. C'est pas la personne qui va faire ses campagnes d'email. C'est pas la personne qui va devoir créer des landing pages. C'est pas la personne qui va faire un workflow d'automatisation. Mmh. Fait que la personne choisit, elle fait, Zoho, ça fait tout ça, ou Dynamics, ça fait tout ça, puis le prix, on a négocié, puis ça rentre dans notre budget, fait go, on va avec ça. Mais après ça, la personne ou les personnes, dépendamment de la grosseur d'entreprise, dans le day-to-day qui utilise l'outil, ben elle a perdu un temps fou, là. À toutes les fois qu'elle veut envoyer un email, il faut qu'elle rentre dans du HTML. Puis là, on sait que c'est pas tout le monde dans des équipes marketing qui sont bons pour coder. Mm-hmm. Fait que là, il faut qu'il fasse appel à un développeur. Fait que quelque chose qui aurait pu être fait, puis un designer, puis nini. Fait que quelque chose qui aurait pu être fait par une personne avec le bon outil, que je nommerai pas, va impliquer 3 personnes, va prendre plus de temps, la communication entre ces personnes-là, etc., alors que ça aurait pu être fait simplement par une seule et même personne si l'outil avait été bien choisi. Puis moi, ce que j'aimerais beaucoup faire aujourd'hui, dans le temps qu'on a, c'est expliquer pourquoi, fondamentalement, HubSpot en est arrivé à un outil extrêmement simple d'utilisation comparativement à ses compétiteurs. Mm-hmm. Et la réponse est que HubSpot, comparativement à ses autres compétiteurs-là, Dynamics, Zoho, Salesforce, a grossi par ses propres moyens.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ont tout le temps bâti leurs propres outils. Ils ont fait quelques acquisitions pour aller chercher des technologies plus back-end que ça paraît pas, dans le fond, au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau du AI, par exemple. au niveau des chatbots qui ont été faire des acquisitions qui leur ont permis de développer leur moteur plus rapidement. Mais Salesforce, Microsoft, Zoho, eux, c'est Salesforce, ça a commencé à la base, c'était un CRM. Puis là, quand ils ont vu la mode des marketing automation, Salesforce ont investi dans HubSpot, d'ailleurs, à la base.
Oui.
Et à un certain moment, bon, ils se sont bien rendus compte que HubSpot allait continuer et ne serait jamais achetable, si on veut. Fait qu'ils ont dit, bon, ben, faudrait bien qu'on en ait un, nous autres aussi, un outil de marketing automation. Ils ont acheté quelque chose sur le marché dont je me rappelle même plus le nom. Puis ils ont changé le logo dans le coin, ils ont mis le logo de Salesforce, puis ils ont dit, tu sais, j'exagère à peine, ils ont dit, ben voici maintenant on a un outil de marketing automation, mais ces outils-là sont pas intégrés seamlessly là avec les années, de plus en plus ils le sont, mais tu sais c'est quand même deux outils qui ont été codés complètement séparément, des technologies différentes, des programmeurs différents qui ont travaillé de façon différente, et là tu peux les intégrer, évidemment, comme n'importe quel logiciel avec les API. À ce temps, on peut faire n'importe quoi. Mais ce ne sera jamais aussi seamless que HubSpot, qui, eux, ont fait le chemin inverse. Ils ont d'abord été un outil de marketing automation, puis en 2015, je pense, ils ont dit, ah, ben je pense qu'on est rendu là, on pourrait faire un CRM. Ils ont codé un CRM, ils ont développé un CRM qui s'appuie sur la même base que l'outil de marketing automation qu'il y avait déjà. Fait qu'ils sont déjà faits pour travailler ensemble. Tu sais, t'as pas besoin de dire, ah, ben là, il faut les intégrer, il faut que ce champ-là matche avec ce champ-là. C'est déjà le même outil, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est pour ce. Puis là, je viens de donner un exemple juste pour marketing automation, mais Salesforce a fait la même affaire pour du service desk, pour tout, tout. Au lieu de le bâtir, ils ont été l'acheter. Microsoft, c'est encore pire. Microsoft. Même Office, dans les années 80, PowerPoint, c'est pas Microsoft qui a inventé PowerPoint, ils ont acheté la compagnie, je pense, en 86, qui avait inventé le PowerPoint, qui est un des logiciels les plus révolutionnaires de l'histoire du logiciel, tu sais.
Ouais.
Fait que ces compagnies-là grossissent comme ça, puis c'est pour ça là, que, tu sais, juste checker les URL quand vous êtes dans ces outils-là. Quand tu es dans un URL Salesforce, c'est ça de long, là. Ah ouais. C'est pas clean, tu sais. Non, parce qu'ils ont dû bisouner avec plein de paramètres, plein d'affaires.
Oui, puis c'est toutes les plateformes ont évidemment leurs forces, leurs faiblesses, mais j'ai un client qui utilise Salesforce, puis c'est tout le temps long. Comme il essaie de loader une page pour aller checker quelque chose, puis c'est long.
Puis là, t'as un redirect, puis t'as un autre redirect, puis là, à un moment donné, t'arrives sur ce que tu voulais faire.
Non, c'est ça. Fait que. Puis, tu sais, t'as raison. Puis, tu sais, évidemment, comme tu disais, HubSpot a fait des acquisitions, mais c'est beaucoup dans le back-end. Tu sais, on pense à PySync, justement, qui opère encore un peu comme indépendamment. Indépendamment. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de leur acquisition, parce que j'en ai suivi quelques-unes, notamment leur acquisition pour faire les formulaires en pop-up. Je me rappelle plus du nom là, de l'entreprise initialement. Là, mais c'est que la transition vers l'intégration a été quand même progressive, tu sais, c'est que t'as pas jamais eu encore, je connais pas l'historique de Pardot, Salesforce et tout ça, mais ce que j'ai vraiment aimé de HubSpot, c'est que t'avais vraiment l'impression qu'ils se forçaient pour vraiment bien intégrer l'outil, puis pas de juste tout de suite, on change le logo, boum, c'est à nous autres, mais après, dans le back-end, ça marche pas, etc. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié, là, à l'époque, puis c'est ça.
Exact. Puis là, pour le monde qui sont pas dans le technique, dans les opérations, tout ce qu'on dit là, ça paraît, ouais, mais moi, au final, je m'en sac, mais c'est extrêmement important parce que ça va avoir un gros impact. Ou, tu sais, même à Star HubSpot avec son CMS, là, faire la différence entre WordPress et le CMS d'HubSpot, c'est la même affaire. Le WordPress, c'est un paquet de technologies mis ensemble, puis c'est pour ça que ça va pas bien, puis c'est pour ça que la personne qui travaille dedans à tous les jours, ben elle a le goût de pitcher son laptop dans le mur, tu sais. Puis si t'es un bon décideur, un bon gestionnaire, tu veux pas que tes équipes aient le goût de pitcher leur laptop dans le mur, tu sais, tu veux que quand ils travaillent, ils puissent faire leur chose le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, puis qu'ils soient heureux quand ils le font, tu sais. Et HubSpot permet ça, puis c'est pas parce que je suis vendu HubSpot, là, j'en ai fait des trucs dans Salesforce, j'ai travaillé avec tous ces outils-là là, par le passé. Puis encore aujourd'hui, je travaille avec eux autres parce que je fais des migrations de ces systèmes-là vers HubSpot quand même assez fréquemment, parce que heureusement, il y a des gens qui comprennent que d'aller vers HubSpot, ça a des avantages. Et ils font le move justement de passer de Salesforce à HubSpot ou de Zoho à HubSpot. C'est des choses qu'on fait régulièrement. Puis à deux fois qu'on ouvre, justement, on n'a pas le choix de l'ouvrir, le Salesforce du client, pour voir comment c'était fait pour aller reproduire des choses similaires dans HubSpot, mais en mieux.
Ouais.
Et à tous les fois, c'est comme, ah, c'est donc bien mal fait. C'est épouvantable. Surtout que le prix est exorbitant, tu sais.
Oui, si c'était gratuit, tu dirais, bon, ben c'est le prix à payer. Mais en fait, HubSpot a fait l'inverse, right? Ils ont donné le CRM gratuit, puis il marche super bien, puis il est quand même simple à utiliser. Il est plus difficile à mess up, si on veut, là. qu'un Salesforce qui va te coûter quand même assez petit. Je sais qu'ils ont des versions gratuites pas très chères pour les petites entreprises, mais je pense que c'est ça l'affaire. C'est qu'en fait, c'est des outils qui sont entièrement... Salesforce, c'est celui que je connais le plus. Là, Dynamics, ça fait des années que je ne l'ai pas touché. Mais qui sont bâtis à la base pour être à 100% customizable. Mais l'affaire, c'est que si tu ne sais pas ce que tu as besoin... on parle de CRM, tu sais, fait que si tu connais pas ton processus de vente, puis ce que les représentants ont besoin de faire, puis tout ça, ben, t'es un peu pogné, parce que par défaut, vu que c'est 100% customizable, ben, tu vas te finir avec un genre de Franken-system à un moment donné. Puis, tu sais, je parlais à une startup récemment, puis eux, ils ont embarqué CRM de HubSpot. Ben, tu sais, ils ont pas vraiment de processus de vente défini encore, ils viennent de démarrer comme entreprise. Ben, ils ont pris CRM, le processus de base, puis... Ça marche bien, puis tu sais, il y a pas vraiment de danger.
Au bout de quelques mois, ils vont rajouter une étape, en modifier une, puis tu sais, ils vont l'adapter. Tandis que HubSpot, ou tandis que Salesforce, pardon, Dynamics, t'arrives, c'est vide, c'est blanc, puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais?
Ouais.
Donnez-moi un début de quelque chose, tu sais. C'est un peu le, c'est exactement ça, le problème.
Fait que je dirais, à moins que tu aies une grosse équipe de TI, tu sais, ou tu as un Salesforce consultant, même à l'interne, tu sais, que ça existe beaucoup comme poste, là, si je te dirais, tu sais, c'est genre, à moins que tu aies comme déjà une grosse infrastructure techno, là, derrière, puis du monde pour supporter ça, vas-y avec la simplicité, non, tu sais.
Surtout, tu sais, je pense qu'avec ces outils-là, c'est encore plus important de travailler avec un partner, tu sais, je dis pas que c'est pas important de travailler avec un partner quand tu travailles avec HubSpot, parce que j'en ai HubSpot partner, mais je veux dire, c'est encore plus important parce qu'il n'y a rien en self-service. Tu arrives, une grosse page blanche, tu n'as jamais fait ça. La chance que tu sois capable d'engager quelqu'un qui en a fait plusieurs puis qui a de l'expérience est faible. Fait que, tu sais, allez vous chercher un partner qui, eux, ils font ça à tout. T'sais, une entreprise va, si elle est chanceuse, elle va implanter une fois un CRM dans sa vie. Donc, tandis que le partner, lui, il fait ça jour et nuit depuis des années. T'sais.
Oui, puis là, je boucle un peu avec des conversations qu'on a eues avant, plus tôt, là, ben, il y a quelques semaines. Tu sais, il y a l'aspect stratégique, c'est qu'il y a beaucoup de consultants Salesforce, puis je dis pas tous, là. Ils sont hyper bons dans le technique. Tu sais, ils savent exactement comment ça marche, comment coder tous les modules custom, etc.
Ouais.
Mais ils ont pas de vision stratégique d'un processus, tu sais, si on reste dans le CRM.
C'est pas des marketing, c'est pas des salesperson ou des marketing person.
C'est ça. Puis en même temps, t'as beaucoup de consultants en vente qu'eux, ils ont pas l'expertise techno. Fait que, en fait, souvent, tu vas venir en plus avec 2, 3, 4, 5 consultants pour faire chacun différentes affaires. Là. Fait que,
Exact. Mais il y a des bonnes fins. Autant dans Salesforce, dans Dynamics, dans HubSpot, évidemment. Il y a des firmes qui
oui.
jumellent bien les deux. T'sais, nous, chez nous, on est très technique et on est très aussi stratégique. On a les deux. Mais des fois, malheureusement, ouais, tu vas aller voir un Salesforce consultant qui va pouvoir te coder l'affaire de malade mental, mais il comprendra pas ton processus de vente.
Ouais, puis ça va être un preneur de commande à la base, là, puis il va juste dire ouais, on peut faire ça, puis tu sais, c'est pas.
Et ouais, puis là, tu te ramasses avec un mess. Un mess très bien bâti, mais un mess quand même.
T'sais. Exactement. Cool. Écoute, Louis, on arrive déjà à la fin. Fait que, honnêtement, c'était un épisode vraiment le fun. J'avais hâte de le faire, celui-là. Fait que. Sur ça, je pense que la prochaine fois qu'on se parle, on va parler d'onboarding HubSpot. Fait que
oui,
j'ai hâte de là aussi. Fait que sur ça, ben, passe une excellente journée. Puis merci à tout le monde qui nous ont écoutés en direct.
Merci à tous. Bye.